siècle, dans les années 1920, soufflait à Paris un vent de liberté. Liberté culturelle, artistique, sexuelle. Plus que jamais, Paris est une fête, dit Ernest Hemingway. Partons déambuler au musée du Luxembourg. Plongeons dans le frémissement joyeux et festif de ces années folles, dans cette effervescence créatrice où les femmes cherchent à vivre leur art, à s'émanciper. Tantôt artistes, tantôt mécènes, tantôt garçonnes, tantôt amazones, souvent anticonformistes, ces héroïnes proclament leur identité, leur liberté, leur créativité. Nous sommes en 2022, un siècle après ces années folles. Nous entrons au musée du Luxembourg. Dans la première salle, nous sommes accueillis par un film, par des images en noir et blanc qui défilent à vive allure. Des images de Paris, des images de femmes, femmes actives, femmes en guerre, engagées volontaires comme infirmières au front, fermières, ouvrières, médecins. Aux usines Citroën, les projectiles sont usinés et acheminés par les femmes. On parle de ces femmes comme de la 4e armée. Femmes porteuses de gare, aiguilleuses et chauffeuses de tramway, factrices des postes et téléphones, employées de la voirie. Le Paris des années 20 est aussi celui des femmes artistes, des femmes mécènes, comme en témoigne l'œuvre en marbre noir, intitulée « Étude de tête » pour le Women's Titanic Memorial, de la sculptrice et collectionneuse d'art américaine Gertrude Vanderbilt Whitney. Une femme qui sculpte à Greenwich Village, mais aussi à Passy. Une femme dont le travail fut encouragé par Auguste Rodin, qui fut un temps son professeur. Une artiste qui réalise des œuvres monumentales à Washington, New York, Montréal. Une femme qui crée l'hôpital américain à Neuilly, avant de donner son nom au Whitney Museum en 1931 aux États-Unis. Après nous être arrêtés devant ce buste et ces photos de femmes, devant ces héroïnes des années 20 qui nous transportent par leur efficacité et leur dynamisme, nous traversons une salle qui nous fait découvrir comment les artistes femmes ont participé à la création des nouveaux langages, aux avant-gardes et notamment à l'abstraction. Nous poursuivons notre route et nous déambulons ensuite entre des œuvres aussi diverses que des peintures, des marionnettes, des robes et des collages. Dans le Paris des années folles, les femmes artistes affluent du monde entier, Chine, Russie, Amérique. Elles sont issues de tous les horizons, de tous les milieux. Leur quotidien est souvent difficile, et elles sont amenées à diversifier leur production pour vivre. Les unes livrent des œuvres textiles, d'autres conçoivent des décors et costumes de ballet. La Grande Guerre a ébranlé le modèle patriarcal. Et pour nombre d'artistes femmes, l'esprit qui prévaut est la débrouillardise pour accéder à l'autonomie financière. La vie de Suzanne Valadon, née Marie-Clémentine Valadon en 1865, en est une illustration. Marie-Clémentine Valadon naît de père inconnu à Bessines-sur-Gartempe. Elle est la fille naturelle de Madeleine Valadon, lingère. Très jeune, dans les années 1875, elle devient acrobate au cirque Medrano. Mais une chute met fin prématurément à cette activité. Elle devient alors modèle. Les modèles se vendaient place Pigalle. Et quand on posait nu, on gagnait trois fois plus. Valadon se faisait appeler Maria, car les modèles italiens étaient alors très prisés. Elle pose pour Puvis de Chavannes, pour Auguste Renoir. C'est elle, dans l'œuvre Danse à Bougival. Il devient son amant. Elle pose également pour Henri de Toulouse-Lautrec, l'œuvre datée de 1888, intitulé « Gueule de bois », n'est autre que son portrait. Marie-Clémentine Valadon observe ses peintres, apprend leurs techniques, se forme. C'est une autodidacte. Elle fréquente le milieu artistique de Montmartre. Montmartre où elle vit depuis l'âge de 5 ans avec sa mère. Montmartre, ce quartier à peine rattaché à Paris, alors lieu de révolte et d'anticonformisme. À 18 ans, Marie-Clémentine Valadon attend un fils, Maurice. Elle dit ne pas connaître son père. Né Maurice Valadon, reconnu plus tard, en 1891, par Michel Utriot, il change alors de nom. L'enfant n'est autre que le célèbre peintre Maurice Utriot. Sa mère participera à sa formation. À 18 ans, en 1883, Marie-Clémentine Valadon produit son autoportrait au pastel. Elle s'inscrit alors dans la filiation de Rembrandt, Dürer. L'autoportrait, une manière de se représenter mais aussi d'affûter son regard. L'autoportrait, un exercice où s'expriment au fil du temps les multiples identités de leurs autrices. Valadon en produira des dizaines, à tous les âges, 52, 59, 66 ans. Des œuvres introspectives, jamais exposées de son vivant, sans une once de narcissisme, sans concession, produites avec un œil implacable. Dans un premier temps, donc, Valadon s'adonne au dessin et au portrait. Dès sa fondation, en 1890, elle rejoint la Société nationale des beaux-arts, officiellement féministe et xénophile. 10 à 12 % des œuvres exposées sont le fruit du travail d'artistes femmes. En 1894, Valadon expose justement 5 de ses dessins au salon de cette Société nationale des beaux-arts. Degas, le célèbre Degas, est conquis par son trait, qu'il qualifie de souple et dur. « Vous êtes une des nôtres », lui dit-il. Il lui achète une œuvre le jour même, c'est le début d'une longue série. Il décide également de lui enseigner la taille douce sur sa propre presse. Le fait qu'il l'accepte comme élève est exceptionnel. Elle demande à son entourage féminin de poser pour elle. En 1896, 2 ans plus tard, Ambroise Vollard édite ses gravures. Des moments du quotidien où s'exprime avec tendresse la lassitude physique du corps, dans des scènes saisies sur l'instant. J'ai dessiné follement pour que, lorsque je n'aurai plus Dieu, j'en ai au bout des doigts, écrit-elle. C'est aussi à cette époque que la modèle, la terrible Maria, est rebaptisée par le peintre Toulouse-Lautrec, avec qui elle partage un moment sa vie. Il la renomme Suzanne, Suzanne en référence à la Suzanne biblique. La modèle posait alors pour des vieillards, dit-il. En 1909, elle représente un couple nu avec un réalisme intransigeant. Un couple nu dans le jardin d'Éden, c'est une huile sur toile. Il s'agit en fait d'un nouvel autoportrait, son autoportrait nu. Et l'homme nu, à côté d'elle, n'est autre que l'ami de son fils, André Uther. Elle a 43 ans, il en a 23. Elle est l'artiste, il est son modèle. Elle l'épousera quelques années plus tard, en 1914. Nous sommes au début d'une relation longue, houleuse, qui durera près de 30 ans. Dans cette œuvre, intitulée « Adam et Ève », qui mesure 1,62 m de haut, elle se représente donc nue, avec son amant, quasiment grandeur nature. Elle est la première artiste femme à exposer un portrait d'homme nu érotisé dans un format monumental. Et peindre un homme nu à cette époque n'était pas un sujet féminin. Scandale. Ce n'est pas sans nous rappeler celui de 1892, le refus par l'inspecteur des Beaux-Arts de la première version de la valse de Camille Claudel, dont les danseurs étaient également complètement nue. Mais revenons à Suzanne Valadon, provocatrice, avant-gardiste, qui dans cette toile réinvente les codes de la relation entre l'artiste et le modèle. 10 ans après la réalisation de cette œuvre, pour pouvoir l'exposer au Salon des Indépendants de 1920, Suzanne Valadon devra ajouter quelques feuilles de vigne pour masquer le sexe d'Adam. Persistance de la convenance du 19e. Valadon connaît de son vivant le succès et la reconnaissance de ses pairs. En cette année 1920, elle est d'ailleurs nominée comme sociétaire du Salon d'automne. Tout au long de sa carrière, elle vend des œuvres. 156 de ses œuvres seront achetées par les plus grands, Renoir, Van Gogh, Modigliani, Toulouse-Lautrec, et 26 d'entre elles par Degas. Attention, le propos est cependant à nuancer. Le bémol, ses œuvres se vendent à des prix très bas. On ne savait pas comment évoluerait la valeur de l'œuvre d'une femme. 1912, portrait de famille avec sa mère, son fils Maurice et André Uther. Elle seule nous regarde en face, elle est la chef de famille. Aujourd'hui, l'œuvre de Suzanne Valadon que je souhaiterais décrypter avec vous s'intitule « La chambre bleue ». Il s'agit d'une huile sur toile, format paysage, 90 cm de haut, 116 cm de large, datant de 1923. Une femme est étendue devant nous sur une couche au drap bleu qui occupe un peu plus de la moitié inférieure du tableau. Des rideaux de la même couleur encadrent la représentation et laissent voir un mur dans des tons de beige, d'un beige lumineux tirant sur l'ocre jaune, animé ici de coups de pinceau plus blancs, là de notes rouges et encore d'autres légèrement grises. Ce mur est animé, vivant, si l'on prend le temps de s'y attarder. Pourtant, lorsque l'on est face à la toile, c'est le bleu qui domine, ce bleu des draps, ce bleu des rideaux, un bleu plein de nuances, des bleus qui fluctuent au gré de la lumière, des bleus où l'artiste n'hésite pas à tracer de forts traits sombres, presque noirs, pour figurer les plis. Ce tissu bleu est lui-même animé d'un motif de feuilles blanches qui, par leur forme, font penser à des feuilles de vigne. Ce décor évoque le confort. L'oreiller blanc, situé tout à droite de la toile, derrière la tête et les épaules du modèle, contribue également à cette idée d'intérieur où il fait bon se poser, se reposer. La femme est allongée de côté, un trait sombre, bleu-noir, ample, vient cerner la figure. Les couleurs sont denses, contrastées. À gauche de l'œuvre, ses pieds sont croisés au niveau des chevilles. Un peu plus haut, sa main droite est posée sur sa cuisse. Très brune, ses cheveux sont coiffés simplement dans un chignon bas. Appuyée sur son coude gauche, elle a le visage de trois quarts et regarde au loin vers sa droite. Elle est perdue dans ses pensées. Son attitude est souple, nonchalante, tout en courbe. Cette description pourrait vous évoquer la Vénus du Titien, l'Olympia de Manet ou encore la Grande Odalisque de Ingres. À ceci près, qu'elle est orientée dans l'autre sens, qu'elle regarde de l'autre côté. À ce stade, vous pensez donc peut-être que je viens de vous décrire une des nombreuses odalisques de l'histoire de l'art. Mais si je vous dis maintenant que cette femme a la cigarette au bec, qu'elle porte un débardeur à double bretelle tout simple, dans des tons de rose très proches de ceux de sa chair et qui répondent à certaines notes du mur du fond. Si j'ajoute encore que la femme porte un pantalon de pyjama blanc à rayures vertes, vous comprendrez que nous sommes ici devant une odalisque revisitée. Une odalisque vêtue d'un pyjama aux allures plutôt masculines, une odalisque à la poitrine lourde, les mains larges, le teint rougi. Une odalisque sans bouquet de fleurs, sans servante, sans petit chien, une femme seule, perdue dans ses pensées, la cigarette au bec, avec deux livres posés à ses pieds. Le jeu de motifs des draps, rideaux et pantalons pourrait donner un caractère orientalisant à cette représentation. Il pourrait peut-être nous évoquer les odalisques de Matisse. Mais ici, la femme ne présente aucun caractère érotique, sensuel. Loin de toute vision fantasmée, nous sommes devant une femme dans toute sa simplicité. Une femme dans son intimité qui ne semble avoir conscience ni de la présence de l'artiste, ni de celle du spectateur. Une femme vue par une femme dans toute sa vérité. Suzanne Valadon dit au sujet de ses peintures « Ne m'amenez jamais pour la peindre une femme qui cherche l'aimable ou le joli. Je la décevrai tout de suite. » Le thème de l'odalisque, jusqu'alors réservé aux hommes, est traité ici avec audace. Le nu féminin est ici réinventé par Suzanne Valadon. Elle rhabille son modèle. La femme est une lectrice. Elle fume. Elle est absorbée dans ses pensées. Nous sommes aux antipodes des Vénus nues de l'histoire de l'art. Nous sommes devant une figure monumentale qui pourrait nous évoquer la vagabonde, pour reprendre le titre du roman de Colette. Nous sommes devant la femme nouvelle, la femme moderne. Nous sommes devant un manifeste de la femme libre. Cette toile annonce également la section suivante de l'exposition, intitulé « Chez soi, sans phare ». Nous y voyons encore des femmes peintes par des femmes dans leur intimité. Mais nous entrons dans l'univers de la maternité. Un des sujets considérés comme féminin à l'époque, au même titre que les natures mortes, bouquets et scènes d'intérieur. Cette fois, le sujet de la maternité est traité dans toute sa vérité. On y voit des femmes allaitantes, ouvrières, domestiques, de toutes les origines, tziganes, espagnoles, africaines. Leur regard est sincère. Nous sentons leur amour, leur fierté, mais aussi leur fatigue, leur crainte. Et puis il y a ces mères autonomes, indépendantes, puissantes, comme Tchanna Orlov, née en Ukraine en 1888. Tchanna Orlov fait son autoportrait avec son fils Élie. Dans une œuvre en bronze, petite par sa taille, 63 cm de haut, mais monumentale par ce qu'elle exprime. Cette œuvre date de 1927 et l'artiste l'intitule « Moi et mon fils ». Tchanna Orlov exalte ici une vision puissante de la femme qui assume le rôle des deux parents. Elle a perdu son mari, le poète polonais Harry Justman, de la grippe espagnole en 1919. Tchanna Orlov est une femme qui a affronté les persécutions antisémites, qui a subi plusieurs migrations forcées, qui a éduqué seule son fils handicapé. Elle est une artiste à succès, vivant de son art. Une femme moderne qui, en 1924, se fait prendre en photo pour promouvoir une prochaine exposition, posant pleine d'assurance, assise sur un piédestal, au milieu de ses œuvres, en blouse de travail, en blouse de sculpteur, un foulard noué autour du cou, arborant cheveux courts à la garçonne et talons élégants, affirmant ainsi son statut de sculptrice. Tchanna Orlov est une des grandes personnalités de l'école de Paris. Tchanna Orlov est une femme émancipée, active, financièrement indépendante, transnationale. Ce sont les œuvres de cette même artiste qui nous accueillent un petit peu plus loin, dans la section de l'exposition intitulée « Troisième sexe » par les commissaires d'exposition Camille Moineau et Lucia Pezzapan. Les commissaires empruntent cette expression « troisième sexe » à Willy. Willy le fantaisiste, l'esprit du cabaret, le chat noir à Montmartre, le mari de Colette, le défenseur cynique des homosexualités au croisement des genres. Nous sommes plongés dans le Paris capitale des idées et des arts. dans le Paris creuset cosmopolite où révoltes et espoirs bouillonnent, le Paris lieu de liberté, et pour les femmes, espace d'expression, de visibilité, de liberté comportementale. Le propos est cependant à nuancer. L'égalité économique et politique reste à un horizon lointain, rappelant qu'il faudra attendre 1930 pour que le port du pantalon soit banalisé en extérieur, 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de vote suite au rejet du texte par le Sénat en 1922, et mieux encore, il faudra attendre 1965 pour que les femmes mariées aient le droit d'ouvrir un compte en banque et d'exercer une profession en toute indépendance, sans autorisation de leur époux. Mais revenons au Paris des années 20, au Paris des années folles. Plongeons avec ces femmes, ces artistes, dans cette courte parenthèse temporelle de liberté, dans ce Paris, ville du cancan, des cocottes et des petites femmes, mais aussi des garçons et du Charleston. Ce Paris qui se distingue des autres capitales par le vent de liberté qui y souffle, devancé seulement par Berlin en la matière. En effet, depuis 1791, la France se distingue de ses voisins par la non-pénalisation des rapports entre personnes de même sexe. Elle ne les approuve pas, ne les promeut pas. À Paris, des femmes comme Gertrude Stein, Nathalie Clifford Barnet, Romaine Brooks, Adrienne Monnier et bien d'autres encore peuvent vivre librement, presque ouvertement, des amours qui seraient difficiles, voire impossibles à assumer outre-Manche et outre-Atlantique, où le puritanisme monte en puissance et gronde. Nous sommes en pleine période de prohibition aux États-Unis, ne l'oublions pas. C'est donc dans cet univers que nous allons plonger maintenant, en déambulant dans cette salle intitulée, comme je vous l'ai dit, « Troisième genre ». Cette idée englobe une grande diversité d'expressions et je vous propose maintenant de nous pencher plus particulièrement sur l'une d'entre elles, sur l'image, la personnalité de l'Amazone. L'Amazone, le seul mythe classique à mettre en œuvre l'agentivité féminine dans une société sans hommes. Ce terme d'agentivité peut peut-être paraître technique et assurément anachronique. Je l'emprunte au psychologue américain Albert Bandura, car il exprime efficacement ce que vivent les artistes femmes de l'époque. Je l'utilise dans le sens de capacité des individus à être des agents actifs de leur propre vie, à développer une pensée indépendante, à exercer des choix libres, à agir en fonction de leurs idées. C'est exactement ce que recherchent et prônent les artistes réunis ici, dans cette salle. Lorsque nous arrivons dans cet espace, nous sommes en premier lieu accueillis et impressionnés par une statue massive, un bronze monumental. Monumental par sa taille, par la pureté de ses lignes. Un portrait de femme fait par une femme, un portrait d'artiste fait par une artiste, le portrait d'une artiste américaine, dressée par une artiste née en Ukraine, le portrait de la peintre Romaine Brooks par la sculptrice Chana Orloff. Il s'agit d'un buste coupé à mi-cuisse et il mesure 1m30 de haut. La femme devant nous est donc représentée grandeur nature. L'œuvre frappe par la géométrie de ses formes. Le manteau de l'artiste est représenté comme un cône inversé et constitue 5/6 de la sculpture. Romaine Brooks a les mains dans les poches. Son visage, lisse, mince, aux traits stylisés, sort avec fierté et dignité du col en fourrure de son manteau. Germaine Coutard-Salmon, qui a écrit une biographie de Chana Orloff, évoque ainsi cette œuvre. Moulée dans son confortable manteau, le port altier, elle s'impose. Le manteau n'est qu'une enveloppe. Il est traité sans détail, mais non sans mystère. La simplicité de ce modelé lisse ajoute à la force de ce caractère. Cette œuvre impressionne, Cette œuvre donne toute sa dimension à la peintre ici portraiturée, à savoir Romaine Brooks. Nous évoquerons une de ses toiles dans un tout petit instant. Mais poursuivons notre flânerie pour découvrir, derrière cette sculpture, une autre œuvre sculptée de Chana Orloff. Nous y voici. Elle est intitulée « L'Amazone ». Elle est antérieure à la précédente puisqu'elle date de 1915. Nous sommes cette fois dans un format plus petit. Elle mesure 73 cm de haut. Elle est ici en bronze, mais Chana Orloff l'a traitée initialement en bois. Comme l'indique son titre, l'Amazone, il s'agit d'une représentation d'une femme à cheval. Les proportions ne sont absolument pas respectées. Les jambes du cheval semblent très courtes et ne donnent que plus de grandeur à la femme qui le guide. La représentation est stylisée. L'aspect brillant et lisse du bronze sombre domine. Nous sommes frappés par la fierté de l'Amazone et de sa monture. Le cheval marche dignement. Son antérieur droit est relevé et dessine un bel arc de cercle. Sa tête est collée à son poitrail, la flexion de l'encolure est à son maximum, la tension extrême. Il porte un tapis qui dessine une belle courbe en partie basse. La cuisse droite de la femme se résume à un parallélépipède posé horizontalement sur le corps du cheval, sur le tapis. Cette cuisse se prolonge jusqu'à l'encolure de la monture. Parfaitement perpendiculairement, le buste de la femme se dessine avec une taille d'une extrême finesse, d'une extrême féminité. Une taille qui laisse à croire que cette femme est corsetée. Une taille soulignée par les basques de la veste. Les plis, très sobres, ondulent souplement et viennent souligner les hanches de la cavalière. La femme a les épaules basses. Son bras, mince, tubulaire, dessine lui aussi une courbe qui n'en finit plus. Il se prolonge jusqu'à l'encolure du cheval. Elle tient les rênes, stylisées, réduite à un relief d'une extrême finesse. Continuons de tourner autour de cette statue équestre. De dos, la démesure de l'Amazone par rapport au cheval, la finesse de sa taille, son port altier, sont encore plus marquants. Son torse, en forme de sablier, est animé dans le dos, en partie haute, par un col claudine, dont la bordure en vaguelette, pourrions-nous dire, rappelle les basques de la veste de la cavalière. C'est sobre, mais décoratif. Tournons encore autour de l'œuvre et découvrons cette fois la jupe qui vient couvrir les jambes de la femme. Une jupe longue, parfaitement lisse, qui se déploie en partie basse dans un magnifique arc de cercle, là encore. Une jupe qui s'étale sur le flanc du cheval, qui suit la forme de la monture et vient fusionner la femme et l'animal. L'Amazone et sa monture ne font qu'un. Ils avancent, calmes, dignes, fiers, presque hautains. Le premier métier de Chana Orloff est celui de styliste et elle intègre de façon unique la mode féminine dans ses œuvres. La tenue de l'Amazone, tout en féminité, est aux antipodes du long manteau contemporain avec lequel elle habille Romaine Brooks. Le vêtement participe au discours, il est profondément en lien avec la personnalité du sujet. Observons maintenant la tête de l'Amazone. Elle est formalisée le plus simplement possible. Elle est constituée de deux coques faiblement creusées, placées l'une contre l'autre, comme deux mains jointes. Le visage se résume donc à deux surfaces lisses, faiblement bombées, et leur arête de jonction. La coiffure est également on ne peut plus simple, on ne peut plus lisse, un petit carré court, une coupe à la garçonne. Cette silhouette stylisée et élancée ne correspond en rien au stéréotype de la guerrière robuste que l'on pourrait retrouver dans certaines œuvres de Tamara de Lempicka. Cette silhouette d'une extrême féminité est bien éloignée des femmes androgynes habillée à la garçonne, de la peintre Romaine Brooks. Cette œuvre est une réinterprétation radicale du mythe de l'Amazone, devenue ici un être hybride, une femme cheval à part entière. Cette œuvre est sans doute une allégorie de la puissance et des forces féminines, dotée des attributs élégants de la parisienne moderne. Physiquement, l'Amazone ne ressemble en rien à la sculptrice Channa Orloff. Mais elle pourrait cependant être considérée comme un autoportrait symbolique de l'artiste avant-gardiste parisienne exaltée, elle-même guerrière pendant une grande partie de sa carrière. Channa Orloff présente l'Amazone au Salon des Indépendants de 1920, à la First Russian Exhibition of Art and Craft, à la Whitechapel Art Gallery de Londres en 1921, et chaque fois, les commissaires réservent une place de choix à cette œuvre. Le mode de vie de Channa Orloff et son art viennent ébranler le vieil ordre social. Orloff et son art participent à la réinvention des rôles de genre dans les années 1920. Notre regard se détourne un instant, interpellé par la représentation sur une toile d'un petit cheval fougueux. Il est en bronze également, mais lancé au galop. Intrigués, nous nous approchons du cartel. Il nous indique que l'œuvre s'intitule également « L'Amazone ». Les représentations des chevaux sont aux antipodes. À l'allure digne, imposante, monumentale du bronze de Channa Orloff, répond la légèreté et la vélocité de ce petit cheval au galop. Il s'élance au-dessus d'une feuille blanche pliée en deux, elle-même posée sur une table. Accoudée à celle-ci, une femme aux cheveux courts et ondulés nous fixe. Vêtue d'un ample manteau de fourrure dans les tons de gris, elle occupe une grande partie de l'espace de la toile et à l'arrière-plan se déploie comme dans la brume un paysage hivernal parisien esquissé dans un camailleux de gris extraordinaire. Avant d'en dire plus sur cette femme, un petit mot sur le cheval. Comme la chauve-souris, il fait partie du bestiaire précieux des lesbiennes, évoquant un imaginaire érotique et parfois la vitalité sexuelle. Tantôt indomptable, comme dans le tableau de Romaine Brooks, il symbolise la fougue. Tantôt savamment maîtrisé, il peut être l'expression de l'élégance racée. Mais revenons à notre Amazone. Sommes-nous là encore devant une allégorie ? Non. Cette fois, il s'agit d'un portrait. Du portrait d'une femme connue, respectée, admirée par l'intelligentsia parisienne, de cette femme surnommée l'Amazone avec un grand A dans le Paris des années 1920, de l'écrivaine Nathalie Clifford Barney. Cette femme n'est autre que l'amante de l'artiste peintre Romaine Brooks qui la portraiture ici. Nous sommes là encore, devant une femme, représentée par une femme. Cette femme de lettres américaine, Nathalie Clifford Barney, est connue pour ses poésies, mémoires et épigrammes. Elle est l'autrice d'un livre intitulé « Les pensées d'une Amazone ». Elle est aussi le maître des lieux, du vin de la rue Jacob, du temple grec de l'amitié. Elle y tient pendant près de 60 ans ses célèbres vendredis, un des derniers salons littéraires influents. Ce lieu est un îlot de liberté, fréquenté par Colette, Gertrude Stein, Romaine Brooks, Auguste Rodin, Isadora Duncan, Marie Laurencin et bien d'autres encore. Les artistes que nous avons évoqués aujourd'hui proviennent de tous les horizons, de toutes les classes sociales, d'un monde cosmopolite où les femmes voyagent. C'est à noter car c'est vraiment caractéristique de cette décennie. Ces artistes, ces femmes, chacune à leur manière, sont autodéterminées. Elles sont en quelque sorte des symboles de force, jouant un rôle d'Amazone dans un monde dominé par les hommes. Gertrude Vanderbilt Whitney, Suzanne Valadon, Channa Orloff, Romaine Brooks, Nathalie Clifford Barnett, sont des pionnières, des intrépides, des guerrières qui cherchent à changer le style et la forme de l'identité féminine dans les arts et dans la vie. Elles clament leur liberté, liberté de penser, liberté d'agir, liberté d'aimer, liberté de créer. Ces artistes cherchent à se réapproprier leur corps, enfin dépouillé du regard masculin. Elles défient les mœurs bourgeoises, elles refusent les conventions, elles ne cessent de repousser les frontières des sujets jugés acceptables pour les femmes. Elles ouvrent des possibles. Cependant, les plaisirs troubles et la respectabilité bourgeoise cohabitent. La folie de la décennie est énergisante, libératrice, mais aussi pleine de pièges et de fausses promesses. Et en 1929, la mode proclame un retour à la féminité, jupes et cheveux se rallongent. Les années 1930 sont marquées par la volonté de rétablir une virilité triomphante. La crise économique, la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre froide, conduisent à un retour du puritanisme. Et il faudra attendre les années 1960 pour connaître un nouvel élan de liberté. En tout cas, aujourd'hui, au long de cette flânerie au Palais du Luxembourg, j'espère vous avoir donné une idée du bouillonnement culturel, artistique et social qui animait le Paris des années folles. Au cours de notre déambulation, j'ai évoqué le vent de liberté qui souffle à la même époque sur Berlin, où le travestissement et la destruction des codes vestimentaires conduisent d'équivoques créatures noctambules à fréquenter les cabarets. Si vous souhaitez faire une incursion dans ce monde, je vous donne rendez-vous au Centre Pompidou, qui offre en ce moment un panorama inédit sur la nouvelle objectivité, ce courant artistique plus réaliste, plus objectif, qui se déploie dans l'Allemagne des années 1920. Ce courant qui touche tous les arts, toute la société. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation du mois de mai 2022 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les déficients visuels. Pour accompagner notre flânerie, j'ai choisi une musique de Patrick Cohen où piano, saxophone et contrebasse nous replonge dans le swing et l'effervescence des années 20 à Paris.